Bonjour à tous. On raconte l'histoire d'un brahman, qui tous les jours à son réveil prenait son bain rituel et partait assister aussitôt vers le temple avec son panier d'offrande à la main pour assister à la prière du matin. De même, le midi, le soir, il retournait au temple. Et ainsi, trois fois par jour, il rendait un culte à Dieu. Avec ferveur, il priait « Seigneur, je viens te rendre visite chez toi, sans que j'aie manqué un seul jour. Matin et soir, je te fais des offrandes. Ne peux-tu pas venir chez moi ?» Attentif à cette prière quotidienne, Dieu lui répondit enfin « Demain, je viendrai. » Tout heureux, il se mit à laver à grandes eaux sa maison. À l'aube, il attache une guirlande de feuilles de manguier à l'entrée de la maison. Dans la salle de réception, des plateaux de fruits, des galettes sucrées, des fleurs s'étalent à profusion. Tout est prêt pour recevoir Dieu. Il se tient debout pour l'accueillir. L'heure de la prière matinale approche. Un petit garçon qui passe par là aperçoit par la fenêtre ouverte les plateaux de galettes. Il s'approche. « Grand-père, tu as beaucoup de galettes là-dedans. Ne peux-tu pas m'en donner une seule ?» Furieux de l'audace du gamin, il réplique. « Veux-tu filer, moucheron ? Comment oses-tu demander ce qui est préparé pour Dieu ?» Et le petit garçon effrayé s'enfuit. La cloche du temple a sonné. La prière est terminée. Dieu viendra après le culte de midi. Attendons-le. Fatigué, il s'assoit sur le banc. Un mendiant arrive et lui demande de l'aumône. Le brahman le chasse vertement, puis lave soigneusement la place souillée par les pieds du mendiant. Et midi passe. Dieu n'est toujours pas au rendez-vous. Le soir vient. Tout triste, il attend toujours la visite promise. Et un pèlerin se présente à l'heure de la prière. « Permettez-moi de me reposer sur le banc et d'y dormir cette nuit. Jamais de la vie. C'est le siège réservé à Dieu. » La nuit est tombée, Dieu n'a pas tenu sa promesse, pense-t-il tout triste. Le lendemain, revenu au temple, pour la prière, il renouvelle ses offrandes et fond en larmes. « Seigneur, tu n'es pas venu chez moi, comme tu me l'avais promis. Pourquoi ?» Une voix lui dit alors, je pense que vous l'aurez tous compris, « Je suis venu trois fois, et chaque fois, tu m'as chassé. » « Je suis venu trois fois, et chaque fois, tu m'as chassé. » À trois reprises, ce brahman a eu l'occasion d'accueillir Dieu à travers un petit garçon, un mendiant, un pèlerin. Et chaque fois, il n'a pas posé le bon regard sur ces trois personnes. Il s'est malheureusement trompé. Lorsque Jésus est venu sur terre, peu de monde a posé le bon regard sur lui. Beaucoup se sont trompés, et notamment les pharisiens, qui n'ont pas voulu voir en Jésus le Messie, l'unique, le Christ. Et ce matin, je voudrais méditer avec vous sur l'un des passages où les pharisiens se sont justement lourdement trompés à propos de Jésus. Et ce passage est l'un des événements centraux de la vie et du ministère de Christ. C'est un événement pivot dans la vie de Christ. Il y a eu un avant et un après cet événement. Avant cet événement, Jésus faisait de grandes campagnes de guérison et de miracles. Il avait un enseignement très clair. Repentez-vous. Après cet événement, son ministère va devenir plus discret. Jésus va se concentrer sur ses disciples, sur l'enseignement de ses disciples, avant toute chose. Et son enseignement va se faire à travers des paraboles qui ont pour but de ne pas dire toutes les choses, de ne pas être compréhensible pour tout le monde. Cet événement est bien connu, car c'est à cette occasion que les pharisiens vont mettre le comble à leur rejet de Christ, en l'accusant tout simplement d'être un démon. Jésus lui va réagir avec force contre eux en évoquant quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, sur lequel on va s'arrêter aussi, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce passage, on retrouve entre autres dans Matthieu 12, versets 22 à 37. Matthieu 12, versets 22 à 37, que je vous invite à lire maintenant, après quoi on va voir quelques conclusions par rapport à ce passage. Matthieu 12, versets 22. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit, et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait, « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, « Cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. » Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même, comment alors ce royaume subsistera-t-il ? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort ? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Considérez-vous bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Espèce de vipère. Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais ? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. À plusieurs reprises durant le ministère de Christ, on lui a amené des malades, des démoniaques. C'est un peu la routine pour Jésus. Et c'est encore le cas dans ce passage. On lui amène un homme qui est aveugle et sourd. On ne sait pas vraiment qui c'est qui a amené cet homme. Certains commentateurs pensent que ce sont les pharisiens qui ont amené cet homme malade à Jésus dans le but de le coincer avec un cas difficile. Un homme sous l'emprise d'un démon qui le rend à la fois aveugle et muet. Je disais sourd avant, je me trompais. Aveugle et muet. Et donc avec qui il est pratiquement impossible de communiquer. Comment Jésus va faire pour guérir ? Et là, Jésus intervient de manière décisive, claire, simple. Jésus le guérit, tout simplement. Il n'a pas fait les choses à moitié. Cet homme est guéri totalement. Il peut à nouveau parler, il peut à nouveau voir. Et devant cette nouvelle guérison miraculeuse, qui en suit bien d'autres, opérées par Jésus, le texte nous rapporte deux types de réactions. La première réaction, c'est celle de la foule. Elle est bouche bée. La foule se questionne. Est-ce que Jésus est le fils de David ? Autrement dit, le Messie tant attendu. La foule se questionne, mais elle ne s'est pas positionnée pour l'instant. Elle n'a pas affirmé la divinité de Jésus. Elle est juste à se poser la question, simplement. Et l'autre réaction, c'est celle des pharisiens. Le questionnement qui traverse la foule est une menace pour eux, parce qu'ils avaient la main mise sur le peuple. Mais si le peuple commençait à croire que Jésus était réellement le Messie, alors quelque part, ça serait fini de son autorité, de leur autorité. Mais ils ont un gros problème face à eux. Ils ont assisté à cette guérison et ne peuvent pas le remettre en cause. Cet homme était démoniaque, était sous l'emprise d'un démon, il est délivré. Cet homme était aveugle et muet, il voit, il parle. Ils ne peuvent rien dire par rapport à cette guérison, ils ne peuvent pas la remettre en question. Et comme ils ne peuvent pas contester cette guérison, et donc la puissance opérée par Christ, les pharisiens vont vouloir discréditer Jésus aux yeux du peuple, salir sa réputation en remettant en cause non pas sa puissance, mais la source de sa puissance. C'est pour cela qu'ils lancent une accusation terrible à l'encontre de Jésus. C'est par le pouvoir de Belzébul que Jésus accomplit tous ses miracles et toutes ses guérisons et toutes ses délivrances. Le nom de Belzébul est un dérivé d'une divinité de Babylone, des Philistins, pardon, qui était un synonyme de Satan à cette époque-là. En affirmant cela, les pharisiens ne font rien de moins que de dire que Jésus est un démon. Jésus, c'est le diable, c'est un suppôt de Satan. Cette terrible accusation contre Jésus ne va pas rester sans suite, car cette fois-ci, et c'est plutôt rare qu'il le fasse, Jésus va se défendre. Et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Les pharisiens ont accusé Jésus d'être un démon au milieu de la foule. Mais ils sont bien gardés de le dire directement à Jésus. Mais au verset 25, on voit Jésus connaissant leurs pensées. Jésus connaissant leurs pensées décide de se défendre. Les pharisiens ne voulaient pas se confronter à Jésus à ce moment-là. Mais Jésus décide, lui, de se confronter à eux par rapport à ce qu'ils disent, à ce qu'ils affirment. Et il va donner trois arguments, du verset 25 au verset 30, pour se défendre et pour démonter l'accusation des pharisiens. D'abord, Jésus démontre par A plus B que leur accusation est absurde. Car si Jésus est un démon, alors ça signifie que Satan s'attaquerait à sa propre œuvre. Et ça n'a aucun sens. Satan n'est pas bête au point de s'attaquer à sa propre œuvre, au point de diviser son royaume, de le mettre en péril. Comment quoi que ce soit peut-il exister quand il combat contre lui-même ? S'attaquer à soi-même est toujours destructeur, jamais constructif. C'est toujours destructeur et c'est pour ça que c'est absurde ce raisonnement. Deuxième argument, Jésus démontre aussi l'incohérence de leurs accusations. Certains disciples des pharisiens affirmaient avoir aussi le pouvoir de chasser les démons. Et en effet, l'histoire nous apprend qu'il y avait aussi, à cette époque-là, des exorcistes juifs qui existaient, qui vivaient, mais dont les méthodes étaient très loin de la simplicité et de l'efficacité de Jésus. Juste pour vous donner une idée, Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, écrit « La manière dont il libérait les gens démoniaques était la suivante. Il prenait une bague qui contenait un extrait de racine particulier, il l'attachait à la narine du démoniaque, après quoi il tirait le démon par les narines, et quand l'homme tombait, il commandait au démon de ne plus revenir en disant certaines incantations. Dans le même esprit, voilà ce que le Talmud recommande de faire pour prouver la présence du démon. Celui qui veut découvrir leurs empreintes doit prendre des cendres fines et en couvrir le sol autour de son lit. Au matin, il verra des traces ressemblant aux pas d'un coq. » Peut-être que cela vous fait sourire. Mais pourtant, encore aujourd'hui, dans des églises dites évangéliques, on retrouve ce même type de choses, de longues incantations, des impératifs, des formules et plein de manifestations étranges et bizarres. On est très, 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 très loin de la manifestation de puissance, de simplicité, d'efficacité de Christ durant tout son ministère. Mais Jésus ne porte pas ici de jugement par rapport à ce que les exorcistes de son époque peuvent faire. Mais il s'en sert plutôt pour dire que si lui chasse les démons par Belzébul, c'est aussi leur cas alors. Si le pouvoir de chasser des démons est satanique, quiconque l'exerce est de cette nature, que ce soit Jésus ou les disciples des pharisiens. Autrement dit, en condamnant Jésus, les pharisiens condamnent leurs disciples et donc se condamnent eux-mêmes. En rattachant les mêmes effets à des causes différentes, les pharisiens manquent de cohérence. Leur accusation est incohérente. Et dernier argument de Jésus, Jésus pointe du doigt que leur accusation révèle surtout leur aveuglement spirituel. Ils sont aveugles, incapables de voir la vérité en face. Jésus ne chasse pas les démons par la puissance de Satan, mais par la puissance de l'Esprit. Et Jésus leur donne la conclusion la plus évidente et de loin. Son pouvoir est divin. Son pouvoir vient de Dieu. La haine des pharisiens pour Jésus les aveuglait à tel point qu'ils ne se rendaient même pas compte de ce qui se passait sous leurs yeux. Jésus leur dit « Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et les pharisiens étaient aveugles. Ils se vantaient de leur connaissance théologique. Et voilà que le royaume de Dieu est devant eux sans même qu'ils s'en rendent compte. Leur aveuglement est profond. Jésus n'est bien sûr pas le complice de Satan. Et au contraire, il en est son vainqueur, comme le prouve cette guérison qu'il vient d'opérer. Et c'est ce qu'il souligne au verset 29 lorsqu'il dit « Comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort ?» Dans cette mini-parabole, l'homme fort représente Satan et sa maison, le domaine où il règne, sur lequel il exerce son pouvoir. Jésus est le seul capable de lier Satan. Et en guérissant les malades, en expulsant des démons, en annonçant la bonne nouvelle, il est en train de ligoter Satan. Il est en train de restreindre l'axe de pouvoir de Satan. Dans sa défense, donc, Jésus souligne l'absurdité, l'incohérence, l'aveuglement des pharisiens et conclut par une invitation à prendre position pour lui au verset 30. Il dit bien « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. » Devant Christ, la neutralité n'est pas une option. Il n'y a pas de place pour les indécis. Et cela s'adresse directement à la foule qui s'est questionnée. La foule se questionne. Elle ne s'est pas positionnée. Est-il le fils de David ? Elle n'a pas dit « Jésus est le fils de David ». Elle se questionne, elle est indécise. Elle n'est pas sûre. Et Jésus réclame qu'elle se positionne, cette foule-là. Jésus nous met dans une situation où nous sommes tous obligés de nous positionner. Mais le problème, c'est que beaucoup de monde, et encore aujourd'hui, ressemble à cette foule qui se questionne sur Jésus sans se positionner. On ne se sent pas obligé de se positionner. On évite de se positionner en faisant de Jésus un homme bon, un bon philosophe, des bonnes mœurs, une bonne vision de la vie. Mais cette option n'est pas possible. Jésus ne peut pas être un homme bon, simplement. Et C.S. Lewis l'a bien souligné. « Je m'efforce d'empêcher quelqu'un de faire cette déclaration vraiment insensée, souvent prononcée par les gens à propos de Jésus. Je suis disposé à accepter Jésus en tant que grand professeur de morale, mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. Voilà ce que nous ne devons pas dire. Un homme qui fut simplement un homme et prononça des déclarations du genre de celles que Jésus a faites, Un homme qui fut simplement un homme et prononça les déclarations du genre que celles que Jésus fit ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait ou un insensé ou le diable de l'enfer. Vous avez un choix à faire. Ou bien cet homme fut et est le Fils de Dieu, ou bien un fou ou quelque chose de pire. Vous pouvez le traiter d'insensé, vous pouvez lui lancer des crachats et le tuer comme démon, ou bien vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'en venons pas au non-sens de prendre sa personne pour un grand professeur de morale. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'a jamais eu cette intention. Jésus est-il le Fils de Dieu, un insensé ou quelque chose de pire? La personne et l'œuvre de Jésus exigent qu'on se positionne. Est-ce que tu t'es positionné? Encore une fois, la neutralité n'est pas une option. Il n'y a pas de neutre. Ou au contraire, peut-être, la neutralité est déjà une position, et c'est une position contre Jésus. Jésus nous invite à prendre une décision claire et nette, chacun dans nos vies. Nous sommes soit avec lui, soit contre lui. Il n'y a pas de milieu. Soit avec, soit contre. Et de quel côté es-tu ce matin? Mais Jésus n'en reste pas à cette invitation à se positionner et continue en adressant un avertissement solennel aux pharisiens, qui, eux, ont décidé de se positionner contre Jésus. Et après s'être défendu, donc, Jésus avertit les pharisiens des conséquences de leurs accusations, pleines de mauvaise foi. Et cet avertissement de Jésus aux pharisiens fait partie des passages de la Bible, comme je disais en introduction, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'il y a cette notion de péché impardonnable. Du verset 31 au verset 32, « C'est pourquoi je vous ai averti, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » Ce passage a fait couler beaucoup d'encre pour deux raisons principales. D'abord, Jésus affirme de façon péremptoire que le blasphème contre l'Esprit Saint est impardonnable. Il faut avouer que c'est troublant, parce que cela signifie que la grâce de Dieu ne peut pas tout couvrir. Pourtant, le message de l'Évangile central, c'est celui de la grâce. La Bible affirme à plusieurs reprises la puissance du pardon divin. Mais malgré tout, ce texte nous montre qu'il existe une exception. Tous les péchés sont pardonnables, sauf un, le blasphème contre le Saint-Esprit. Deuxième raison pour laquelle ce passage a fait couler beaucoup d'encre, et principale peut-être, c'est que de nombreux chrétiens sincères ont été troublés, voire même désespérés, en croyant avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit, et donc ne plus pouvoir être pardonnés par Dieu. Voilà quelques témoignages que j'ai pu récolter. J'aimerais juste savoir si ce qui est écrit dans Matthieu est vrai. Il affirme que tout péché peut être pardonné, sauf si quelqu'un parle mal du Saint-Esprit. J'ai fréquenté une école privée chrétienne et un jour, mon professeur de la Bible disait qu'une personne n'est pas pardonnée si elle parle contre le Saint-Esprit. Au moment où il parlait, j'ai pensé quelque chose contre le Saint-Esprit. Je n'ai pas fait exprès, ça s'est passé comme ça. J'ai prié et demandé pardon. Mais est-ce que cela veut dire que je ne serai plus jamais pardonné? Alors que je me concentrais sur l'évangile de Jean, je me suis mis à douter de Jésus et de ses œuvres, sans justification apparente. Je me suis demandé un peu comme les pharisiens si les miracles qu'il avait accomplis pouvaient venir d'une force démoniaque, ce qui est totalement ridicule, je l'admets. Je me suis imaginé un tas de scénarios improbables qui iraient dans ce sens, au point de vraiment y croire. Pour vous dire, j'en suis aujourd'hui encore troublé et confuse. Je n'arrive pas à me débarrasser de ces doutes idiots. Pourtant, je sais que c'est vraiment ridicule et horrible de penser telle chose. Mais j'ai peur d'avoir commis le blasphème impardonnable, celui contre le Saint-Esprit. Je suis chrétien depuis un peu plus d'un an et demi. Il y a 6 mois, alors que je lisais dans Matthieu, je suis tombé sur le verset qui parlait du blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai été terrorisé à l'idée que si je blasphémais contre l'Esprit Saint, je ne serais plus jamais pardonné. Je me suis dit qu'il suffisait que j'aie une pensée insultante envers le Saint-Esprit pour que je sois condamné à aller en enfer. Oh, je ne voulais tellement pas avoir une mauvaise pensée contre le Saint-Esprit que ça a été plus fort que moi. Je l'ai insulté. Depuis ce temps, j'ai très peur d'avoir commis le péché impardonnable. Je suis incapable de me convaincre de ne pas l'avoir commis. Peut-être parmi nous, certains ont déjà eu cette pensée. Et ce qui est important, je crois, avant de dire de quoi il s'agit, c'est bon de dire de quoi il ne s'agit pas. Et ça peut déjà nous rassurer sur beaucoup de points de savoir ce que n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit. D'abord, ce n'est pas un blasphème dans le sens commun, c'est-à-dire une quelconque moquerie vis-à-vis de Dieu. Si c'était le cas, l'apôtre Paul n'aurait jamais été pardonné, parce qu'il confesse ce péché. En 1 Timothée 1, versets 12 à 13, il dit « J'en rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Paul était un blasphémateur. Il a obtenu miséricorde. Ce n'est pas non plus un péché moral, même ce qu'on pourrait juger les plus vils, les pires d'un point de vue humain. Viol, meurtre, inceste, pédophilie. Ce n'est pas un péché moral. Parce que les pharisiens à qui Jésus s'adresse étaient des religieux, cherchant une certaine forme de perfection, incompatible avec ce genre de péché moral. Ce n'est pas non plus le rejet de l'évangile. On peut repousser le Seigneur pendant des années, puis se repentir et être sauvé. La preuve, c'est que des gens de tout âge se convertissent. Je ne crois pas que Dieu s'adresse simplement aux moins de 20 ans. Non, Dieu s'adresse à toutes les générations. Ce n'est pas non plus le fait de retomber dans le péché. Un chrétien peut s'éloigner du Seigneur pour un temps et tout de même revenir à lui. Paul écrit en Romains 8, versets 38 à 39, « J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous arracher. » Alors, si ce n'est rien de cela, de quoi s'agit-il? Parmi les nombreuses interprétations de ce passage, je pense qu'il n'y en a que deux, de mon avis, qui sont vraiment solides et bien étayées. Pour ceux qui soutiennent la première interprétation, dont je fais partie, il s'agit tout simplement d'être témoin des œuvres de Christ miraculeuses et d'en conclure qu'il est inspiré par Satan. Et selon cette interprétation, le blasphème contre l'Esprit n'est donc plus possible aujourd'hui, à notre époque, car il ne peut être fait que devant la personne et l'œuvre de Christ. La notion, verset 32, de « vie présente » ou de « siècle présent », selon les traductions, semble désigner la période du ministère public de Jésus et aller donc dans le sens de cette interprétation. Un passage parallèle de ce texte semble aussi confirmer cette interprétation. Dans Marc 3, verset 30, Jésus est très précis sur la raison pour laquelle les pharisiens ont commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Il est dit « Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». La seconde interprétation est assez similaire à la première, sauf qu'elle prolonge pour l'appliquer à un homme qui, après avoir été convaincu que l'œuvre de Jésus vient vraiment de Dieu, décide malgré tout de le rejeter. Dans ce cas, le blasphème contre le Saint-Esprit serait l'endurcissement persévérant d'un homme, d'une femme contre Dieu. Pour mieux imaginer, imaginez-vous quelqu'un qui a un virus mortel. il peut être pris en charge par un très bon docteur dans un très bon hôpital et en plus est remboursé par la Sécu. Mine de rien. Mais il refuse de prendre le traitement qu'on veut lui administrer car il a peur des effets secondaires. Il sait qu'il est un bon docteur, qu'il est dans un bon hôpital et qu'en plus tout est gratuit. Mais il veut un autre traitement qui n'existe pas et refuse de prendre celui qu'on lui propose. Question. Est-ce que cet homme va guérir ? Non. Non. Sûrement pas. C'est impossible. C'est justement la situation de celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu lui présente le traitement pour le guérir, mais il le refuse systématiquement, volontairement, et se prive du seul moyen de salut. La Bible atteste que Dieu ne refuse jamais de pardonner. Mais celui dont le cœur a passé le point de non-retour dans son endurcissement contre Dieu a comme perdu la faculté de se repentir. Ce n'est donc pas Dieu qui refuse d'accorder son pardon, mais le pécheur qui refuse de demander pardon à Dieu. Ce que dit l'évangéliste allemand Ernst Modersohn, chaque péché dont on demande le pardon sera pardonné. Mais s'endurcir contre Dieu et contre son esprit, c'est précisément refuser d'être pardonné. C'est ne pas demander à Dieu de pardonner ce péché qui, par conséquent, ne peut pas être pardonné, bien sûr. Pour conclure sur le blasphème contre le Saint-Esprit, quelle que soit notre interprétation parmi ces deux-là, on en arrive aux mêmes conclusions. Première conclusion, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un rejet de Dieu. Un rejet volontaire, il ne s'agit pas d'une erreur, d'une pensée, d'une méprise, mais d'un rejet volontaire de Dieu. On peut douter de la nature de Dieu, de la nature de Christ. Mais c'est autre chose que d'étouffer volontairement sa conscience. Et c'est un rejet aussi persistant. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, mais plutôt d'une opposition persistante envers Dieu, à l'image de l'opposition des pharisiens qui, sans cesse, tout au long du ministère de Christ, et même après, on l'a lu ce matin, ont rejeté Christ. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais c'est un acte persistant. Deuxième conclusion très importante. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ce ne peut pas concerner un chrétien. Pourquoi ? Certains chrétiens ont eu peur de l'avoir commis, comme on l'a vu dans les témoignages. Et peut-être parmi nous, certains ont eu cette peur un jour, ou le vivent avec cette crainte actuellement. C'est une méthode perverse de Satan qui cherche à nous suggérer ce genre de pensée pour nous enlever la paix, la certitude que nous avons en Christ. Même si ce péché était encore possible aujourd'hui, ce que je ne crois pas, le simple fait d'avoir peur de l'avoir fait prouve que ce n'est pas ce péché qui a été commis. Les pharisiens qui ont commis ce péché étaient impitoyables, inflexibles dans leur opposition à Christ. Ils n'avaient aucun scrupule à accuser Christ avec mauvaise foi. Ils n'ont même eu aucune hésitation à comploter pour le tuer. Ils n'éprouvaient ni remords, ni désir de repentance. Je le répète pour que ce soit bien clair pour chacun. Si vous avez peur d'avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que vous ne l'avez pas commis et que vous êtes toujours dans la sphère de pardon et de grâce de notre Dieu, pour autant que vous l'ayez accepté dans vos vies. Jésus conclut son face-à-face avec les pharisiens en leur annonçant qu'un jugement va avoir lieu, qui est en lien direct avec leurs paroles accusatrices. Et avant d'annoncer son jugement, Jésus utilise un raisonnement de cause à effet, à travers l'image de deux arbres, au verset 33. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Si un arbre produit du bon fruit, c'est qu'il est bon. Il s'agit de Jésus. Le fruit du ministère de Christ est excellent. Lorsque Jean-Baptiste doutait dans sa prison, au fond de sa prison, Jésus lui a justement rappelé les fruits de son ministère sur terre. En Matthieu 11, verset 5, les aveugles voient, les paralysés marchent. Normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les œuvres de Christ témoignent avant toute chose de sa grâce, de sa miséricorde, de sa divinité. Si un arbre produit du mauvais fruit, c'est qu'il est mauvais. Et là, il s'agit des pharisiens. Leurs paroles sont pleines de mauvaise foi et de préjugés. Et pourtant, ils pensent bien agir. Et c'est ce que Jésus souligne au verset 34 lorsqu'il dit « Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais ?» Réponse, c'est impossible. Les pharisiens croient avoir des paroles justes et bonnes alors qu'ils ont de mauvaises intentions dans leur cœur. Et au final, les pharisiens sont loin du compte. Ils voient que le fruit est bon et pourtant ils affirment que l'arbre est mauvais. Jésus explique clairement d'où vient cette incohérence dans leurs propos, cette incohérence qui va provoquer leur jugement. Elle vient de leur cœur, au verset 34. Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Elle vient de leur cœur, cette incohérence. Leurs paroles reflètent l'état de leur cœur. Les pharisiens refusent de reconnaître Jésus comme le Messie à cause de leur obstination, de leur aveuglement qui vient de leur mauvais cœur. Jésus termine par annoncer le jugement de Dieu sur toute parole sans fondement, toute parole vaine, toute parole inutile, selon les traductions au verset 36. Les paroles des pharisiens constituaient un motif valable pour le jugement de Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Nos paroles constituent un motif valable pour le jugement de Dieu. Les statisticiens estiment que chacun d'entre nous passe près de 13 ans de sa vie à parler. Si on met tout ensemble, toutes nos paroles, 13 ans. Chaque jour, on pourrait écrire un livre de 50 à 60 pages avec nos paroles. Michael Collins estime qu'un homme prononce environ 25 000 mots par jour et une femme environ 30 000. Et il ajoute « Malheureusement, quand je rentre à la maison chaque soir, j'ai déjà prononcé mes 25 000 mots alors que ma femme est loin d'avoir terminé ses 30 000. » À bon entendeur. Le verset 37 qui conclut ce passage peut paraître étrange. Il est dit « En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné, en fonction de tes paroles. » Est-ce que ce sont mes paroles qui me justifient ou qui me condamnent ? N'est-ce pas la foi en Christ ? On semble bien loin d'Éphésiens 2 dans ce passage. Il faut comprendre bien sûr ce verset dans le contexte global d'enseignement de Jésus. Ce ne sont pas nos paroles qui nous sauvent ou qui nous condamnent en elles-mêmes, mais nos paroles reflètent ou devraient refléter notre situation de sauvé ou de perdu. Nos paroles dénotent notre attitude de cœur. C'est dans ce sens qu'elles nous justifient ou nous condamnent. Le salut ou la condamnation ne sont pas produits par nos paroles, mais ils sont manifestés par nos paroles. Ces paroles sont un bon moyen de mettre en évidence la condition spirituelle de quelqu'un. Et la question qui se pose évidemment pour chacun d'entre nous, et que ce texte nous pose, c'est est-ce que mes paroles témoignent de mon salut ? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à revoir parfois dans nos propos. Est-ce que mes paroles témoignent de mon salut ? En conclusion, ce texte nous pose une question fondamentale, je crois, au-delà de ce débat sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Quel regard est-ce que je pose sur l'œuvre de Christ ? Quel regard est-ce que je pose sur l'œuvre de Christ ? Nous célébrons Pâques ce week-end, et j'espère que vous ne m'en voulez pas de ne pas avoir accès à la prédication sur un texte en lien direct avec Pâques. Mais quelque part, je crois que ce texte va dans cette direction-là. Il nous renvoie à Pâques, il nous renvoie à l'œuvre de Christ sur la croix, à sa résurrection que nous avons célébrée pendant la louange. Pour nous poser cette question essentielle, quel regard est-ce que je pose sur l'œuvre de Christ ? Certains jugent rapidement Dieu en affirmant qu'il ne peut pas être amour, vu la souffrance et l'injustice qui existent dans notre monde, par exemple. D'autres restent toujours indifférents en se disant que ça peut attendre. Autant profiter de la vie. Je pense bien sûr que le seul regard valable, c'est un regard à la fois de reconnaissance, parce qu'il est mon sauveur, et de soumission, parce qu'il est mon Seigneur. Nous sommes encore nombreux ce matin, malgré le week-end de vacances. Et je suis persuadé que parmi nous, il y a ces trois regards. Ce matin encore. ces trois regards sont présents. Mais encore une fois, il n'y en a qu'un seul qui soit valable. Je ne peux que prier pour chacun d'entre nous qui est peut-être opposé, indécis, qui se réclame neutre devant Christ, pour que vous soyez convaincus de porter le bon et le seul regard valable envers l'œuvre de Christ à la croix. Au contraire des pharisiens, qui étaient des farouches opposants de Jésus, au contraire de la foule qui s'est posée des questions, mais qui ne s'est jamais positionnée clairement. Nous avons tous un regard de foi adressé à notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.